Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 15 novembre 2024. Ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Ambiance particulière, disons ça comme ça. Ambiance particulière parce que ça va bien aux États-Unis. Dans les derniers jours, Donald Trump a décidé de nommer les personnes qui formeront l'équivalent d'au Canada ou d'au Québec du cabinet ministériel. Qui sera sous sa poigne, littéralement. Puisque que de l'avis de plusieurs, ils seront fidèles à Donald Trump, les gens qu'il nomme. Le seront-ils à la Constitution américaine? C'est une autre chose. Parmi ces nominations-là qui font extrêmement sourciller, mais qui sera un test pour le Sénat, qui est maintenant républicain, puisqu'aux élections de début novembre, trois sénateurs démocrates ont perdu leur siège au profit des républicains, puisqu'ils étaient 50-50 plus le vice-président. Dans ce cas-ci, c'était la vice-présidente. Et là, maintenant que le Sénat est tombé rouge, avec 53 députés pour 47 dans l'opposition, plus la vice-présidence qui sera J.D. Vance, normalement, les candidatures que Donald Trump vont proposer devraient être toutes entérinées sans aucun problème. Sauf que, comme je le disais, Donald Trump a un peu décidé de mettre un peu n'importe qui ait l'expérience ou non, dans des rôles particulièrement importants, mais parce qu'ils ont été fidèles à Donald Trump, il a décidé de les récompenser. Étonnamment, Marjorie Taylor Greene, la Géorgie, n'a rien obtenu. Qui est probablement la dernière défenseresse de Donald Trump. Encore pure et dure, mais même lui sait qu'elle n'a pas de bon sens. Donc, il ne lui a pas fait de promotion en tant que secrétaire, qui est l'équivalent du poste de ministre du côté canadien. Donc, parmi les décisions un peu niaiseuses, en tout cas, de mettre des gens qui lui ont été fidèles plus que d'autres choses au pouvoir. On retrouve notamment Elon Musk, qui, tout comme Donald Trump, fait à croire qu'ils savent de quoi il parle. Eh bien, Elon Musk a été nommé dans un nouveau poste qui devrait servir de coupure. Au sens où Elon Musk a été embauché comme ministre du gaspillage ou ministre de gérer les fonctionnaires de Washington, un peu comme il a géré Twitter, c'est-à-dire mettre tout le monde dehors. Donc, essentiellement, le rôle de, comme Donald Trump ne croit pas en l'État, ne croit pas en la machine gouvernementale américaine, Elon Musk, techniquement, a été embauché pour mettre le plus de monde dehors. Pour l'efficacité gouvernementale, je pense que c'était ça le mot-clé en tant que tel. Mais c'est ça, essentiellement, il va faire comme avec Twitter et sacrer tout le monde dehors et perdre de la valeur, parce que Twitter, il a payé ça au-dessus de 44 milliards, si ce n'est pas le montant exact. Et Twitter en vaut aujourd'hui à peu près 18-15 de sa mise initiale. Fait qu'en plus de perdre énormément d'argent, maintenant, il est ministre de tout ça au gouvernement américain. Et ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui vont être là pour justement faire des coupures et peut-être réduire à néant les institutions gouvernementales. C'est notamment le cas de Pete Hegseth, qui est un ancien présentateur maintenant de la chaîne Fox News aux États-Unis, animateur de fin de semaine du Salut Bonjour de la fin de semaine de Fox News. Il sera à la tête de la CIA, rien de moins. Son parcours en tant que tel, avoir déjà été militaire. Est-ce qu'il a été déployé? L'histoire ne le dit pas. Je ne pense pas. Ancien major de l'armée américaine, vétéran. Il est allé en Irak, en Afghanistan. Bon, il a été déployé. Il était maintenant, c'est ça, animateur du Salut Bonjour sur Fox News. Et c'est ça, c'est fait d'armes pour maintenant être à la tête de l'Agence de renseignement des États-Unis et de l'envoyer directement au Pentagone, juste ça. Et voilà, c'est parce que justement, les gens sont... il fait partie de ceux qui ont été fidèles à Donald Trump pendant sa campagne électorale, ou du moins pendant les 4 années qu'il était en jachère. Donc, petite récompense pour lui. Il y en a d'autres qui font pas de bon sens. Celui qui, jusqu'à hier, était la pire nomination de Donald Trump, Matt Gaetz de la Floride, lui-même poursuivi et enquêté, tout comme Donald Trump, se retrouvera à la tête de la justice. Oui, oui, oui. Pour avoir fait... Matt Gaetz, dit-on, selon Donald Trump, Matt mettra fin à la politisation du gouvernement, protégera les frontières et démantèlera les organisations criminelles et restaurera la foi et la confiance des Américains ébranlés envers le département de la justice. Et Donald Trump, en tant que coupable de 34 chefs d'accusation, a décidé de mettre Matt Gaetz, qui lui-même était suivi pour enquête, pour trafic d'êtres humains et pour avoir potentiellement eu des relations sexuelles avec une mineure de 14 ans. Donc, ce gars-là est maintenant ministre de la Justice aux États-Unis. Ça va super bien. Il était également enquêté pour un scandale d'éthique, de manquement à l'éthique, en tant que représentant de la Floride. Il est tête d'affiche du mouvement MAGA dans la branche républicaine. C'est entre autres à cause de lui qu'on a dû attendre quasiment 2 mois pour avoir un chef des représentants, parce que chaque candidature qui était proposée, il décidait avec le petit caucus qui s'intitule subtilement le Freedom Caucus, qui, eux, ben, votaient systématiquement contre toute proposition qui était un peu démocrate ou contre tout républicain qui n'était pas assez à droite pour eux. Lui non plus ne croit pas en les institutions, donc essentiellement, il sera là pour peut-être démanteler une petite partie du système judiciaire. Ce qui arrive avec cette nomination-là, particulièrement celle de Matt Gaetz, ce serait un test. Ça, c'est selon l'avis de plusieurs, ce serait un test envers les sénateurs qui sont maintenant à la Chambre, qui sont maintenant au Sénat. Les sénateurs au Sénat, effectivement. Un test que Donald Trump veut leur faire faire. Au sens où, si Donald Trump sait que Marjorie Taylor Greene, même si c'est la dernière des Mohicans dans son cas, qu'elle était déguisée en MAGA Trump avec la calotte, le T-shirt, le jacket rouge, un discours de Joe Biden, et ça, les images avaient circulé, que Joe Biden la voyait Marjorie Taylor Greene, elle ne lui sourit plus ou moins, et lui trouve ça drôle de la manière qu'elle est habillée, parce qu'évidemment, elle est habillée en clown, comme elle l'a toujours été. Si elle ne fait pas le cut avant même que Donald Trump, pendant que Donald Trump est en train de choisir ses loyaux sujets, c'est que Matt Gaetz, c'est un test pour le Sénat. Parce que oui, le Sénat est majoritaire rouge, mais en ce moment, que des gens soient en faveur de voter pour Matt Gaetz, parce que le dernier rempart des nominations que Donald Trump fait en ce moment, c'est le Sénat. Donc, si le Sénat approuve une candidature aussi mauvaise que celle de Matt Gaetz en tant que grand patron de la justice américaine, alors qu'il était enquêté jusqu'au moment où il a démissionné de son poste parce que Donald Trump le nommait maintenant à la tête de ce même système judiciaire qui est en train de l'enquêter, à même plusieurs représentants républicains, on n'est pas content. On n'est pas content de cette nomination-là parce que, justement, ce n'est pas un bon choix. Il est difficile d'imaginer un candidat pire et moins qualifié pour le poste de secrétaire à la justice des États-Unis que Matt Gaetz. Ça, c'est le co-président de Public Citizen qui disait ça, Robert Wiseman. Et dans le cas, voilà, de Matt Gaetz, ses seuls faits d'armes, c'est d'avoir été avocat. Mais est-ce qu'il a réussi à plaider un moment donné? Est-ce qu'il a déjà été un véritable avocat? Pas nécessairement. Ben, je dis ça, puis encore là, je peux sûrement me tromper, il a sûrement déjà plaidé quelques causes, mais est-ce qu'il a plaidé de grandes causes? Là est la question, parce que normalement, à la tête de la justice, on met justement des avocats, on met des gens qui sont pas juste qualifiés, on peut mettre des anciens juges, etc., mais là, de mettre un simple avocat de la Floride qui s'est fait faire qui s'est fait faire enquêter, littéralement, qui était sous enquête pour manquement à l'éthique, en plus jeune, d'avoir des archives de mugshot, d'avoir des captures de lui en prison avec la soute orange parce que, justement, il était enquêté pour avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs. Il deviendrait le ministre de la Justice américaine. Donc voilà, est-ce que c'est réellement un test pour les sénateurs? On ne le sait pas. C'est ça qui arrive. C'est qu'avec Donald Trump, rien n'est coulé dans le béton et tout était imprévisible avec lui. Au sens où, parce qu'il n'y a aucune prévisibilité, qu'un matin il se lève puis finalement, tel pays, je décide de plus le financer, ou telle affaire, c'est terminé, c'est son genre. Et même, semble-t-il, que sa prochaine secrétaire générale à lui, qui a été sa secrétaire de campagne, donc qui est un peu la chef d'orchestre de la campagne électorale de Donald Trump, aurait appris, en même temps que tout le monde, que Matt Gaetz deviendrait ministre de la... que Donald Trump voudrait que Matt Gaetz devienne ministre de la Justice. Et... évidemment, tout le monde a été pris par surprise, même son équipe rapprochée. Et c'est ça, Donald Trump. C'est que même s'il a une équipe en qui il a entièrement confiance ou en qui on lui permet de gagner une élection, même eux ne sont pas au courant lorsqu'il prend des décisions on the fly comme ça. D'où l'hypothèse que c'est probablement un test au sénateur de si vous êtes si vous acceptez ça, vous accepterez tout ce que je proposerai pour les deux prochaines années, au minimum, parce qu'il reste les midterms pour renverser un peu la vapeur. Parce qu'en ce moment, la Chambre des représentants, c'est pas mal gagné pour Donald Trump aussi. Donc, les deux chambres politiques, en ce moment, sont supposées approuver tout le temps les projets de Donald Trump pendant au moins 2 ans jusqu'au midterm. Sinon, ben, la nomination qui maintenant est devenue la pire nomination ever. Et en même temps, il avait un peu beaucoup promis parce qu'il a abandonné la course parce que justement, il s'est rallié à Donald Trump. C'est Robert F. Kennedy Jr., celui-là même qui a déjà dit qu'un ver est en train d'y manger le cerveau en ce moment. Il a été nommé ministre de la Santé. Robert F. Kennedy s'était fait connaître notamment pendant la pandémie et beaucoup après pour avoir nié l'efficacité du vaccin, pour avoir dit souvent que le ministère de la Santé servait à rien et maintenant il sera nommé chef de cette section-là. Donc pour lui, ce sera le démantèlement du réseau de la santé américain, d'Obamacare, ce qu'il en reste et à peu près tout ce qui a un peu de bon sens. Donc, des retours de maladies sont à prévoir aux États-Unis. Des maladies éteintes sont à prévoir aux États-Unis. Nous, on a eu un petit peu de scorbut au Canada. Watch out, les Américains, comment ils vont être capables de ramener ça big time. Ce que Donald Trump a dit à propos de Robert F. Kennedy, qui justement a cessé de diviser le vote en revenant du côté de Donald Trump pendant la campagne électorale. « Je vais le laisser faire ce qu'il veut avec la santé. Je vais lui laisser carte blanche sur la nourriture. Je vais lui laisser carte blanche sur les médicaments. » Parce que Robert F. Kennedy est contre aussi les grandes pharmaceutiques américaines. Donc voilà pour la justice et pour la santé aux États-Unis. Ce sera ces deux personnes-là qui devront passer le test mais et où seront obligé d'être choisi par Donald Trump. Le seul espoir qu'on peut avoir, c'est que Donald Trump finisse par se tanner de ces deux gars-là rapidement. Parce qu'il y a eu beaucoup de roulements dans son cabinet lorsqu'il avait été là pendant 4 ans. Donc, on peut espérer que Matt Gaetz et Robert F. Kennedy Jr. ne seront pas là longtemps. Et encore là, on pourrait être surpris. Donc, voilà pour les 4 prochaines années aux États-Unis. Puis probablement que... il n'est pas à la tête de l'éducation, Elon Musk, mais sûrement qu'il va être capable de sabrer là-dedans aussi avec ses coupures. Donc, voilà, un cabinet ministériel de rêve pour pas grand-chose. Bref, c'est la situation aux États-Unis. C'est les nominations que Donald Trump a faites cette semaine, notamment. Il y en a d'autres, évidemment, plus le présentateur de nouvelles à la tête de la CIA. Fait que voilà pour la situation américaine présentement. Ce sera bien sûr en janvier que ces premières nominations-là devront être approuvées lorsque le pouvoir sera officiellement fait entre Joe Biden et Donald Trump, 46e et 47e président des États-Unis. On s'arrête là-dessus. Courte pause. Au retour, la suite de ce deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Du vieux Valence sur les ondes de CFAQ et de Chiz avec Parasol qu'on vient d'entendre en musique. Sujet de prédilection, s'il y en est un au deuxième service, c'est bien les sondages politiques, puisque la tendance est toujours à la baisse pour François Legault, bien sûr. Mais c'est le Parti québécois qui, lui, gagne à ce nouveau sondage. Ces élections avaient eu lieu cette semaine. Le Parti québécois formerait un gouvernement majoritaire avec 35 % des intentions de vote, soit une petite hausse par rapport à la dernière fois, versus la CAQ qui, elle, est redescendue à 21 %, soit l'équivalent de ce qu'il obtenait avant la première élection de la CAQ, donc lorsque c'était une course entre Parti québécois et Parti libéral encore un petit peu, quoique à ce moment-là, c'était le Parti libéral qui était en tête, puis le Parti québécois qui avait de petites difficultés. Dans la région de Montréal, c'est surtout, ben en fait, et Montréal et Québec, c'est le Parti québécois qui domine. Québec, davantage, sans surprise, parce que Montréal, c'est où le Parti libéral fait son meilleur score avec 26%, tandis qu'à Québec, c'est à peine 8% des intentions de vote pour le Parti libéral. Ailleurs en région, même chose, 7% pour le Parti libéral, tandis que le Parti québécois est à 38, suivi par la CAQ à 25. Et on vote hommes et femmes pour le Parti québécois également. Donc, ça va très bien pour Paul Saint-Pierre Plamondon, malgré tout. Quoique, on reste tout de même dans cette frange-là qui monte-descend. C'est surtout entre le Parti québécois et la CAQ que ça s'échange. Sinon, le libéral à 17, QS à 13 et conservateurs qui ferment la marche à 11 sont à peu près dans la marge d'erreur. Donc, on est pas en avantage, pas en désavantage, mais bon, ça se maintient. On peut dire ça comme ça. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce nouveau sondage-là, c'est qu'on a posé d'autres questions. On n'a pas seulement demandé pour qui voteriez-vous. On a demandé, êtes-vous satisfait du gouvernement de François Legault en ce moment? Et avec 6 points en moins depuis un mois, les gens se disent très satisfaits ou plutôt satisfaits à seulement 32%. Tout le reste se dit plutôt insatisfait ou très insatisfait à 61%. Et la marge qui reste refuse ou ne sait pas à seulement 7%. Mais essentiellement, ça donne quand même un score de moins 6, puisqu'en octobre dernier, lorsque cette question-là avait été demandée, êtes-vous satisfait de François Legault? Bien, on est maintenant, on est passé de 38 à 32. La grogne continue d'exister. Et oui, le Parti québécois est en avance, mais pas nécessairement les projets du Parti québécois, puisque la question, s'il y avait un référendum, pour qui voteriez-vous? En fait, pour quelle option voteriez-vous? Voteriez-vous oui ou non à un éventuel référendum du Parti québécois qui a été remis de l'avant? Si à une autre époque, on le mettait en deuxième et troisième place des ordres de priorité, maintenant, on y va all-in en le mettant en première position des premières priorités du gouvernement, d'un éventuel gouvernement péquiste, ben ce n'est pas pour l'option de la souveraineté que les gens vont voter en remettant le Parti québécois au pouvoir, mais bien pour tasser François Legault davantage, puisqu'à la question, si le Québec proposait de devenir souverain, pour quelle option voteriez-vous? Le vrai libellé de la question, si un référendum avait lieu sur la souveraineté, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? Même si votre choix n'est pas encore fait, à 37%, on voterait pour et à 55%, on voterait contre. Bien sûr, l'option péquiste est majoritaire, mais pas tant que ça non plus. Parce que des gens qui voteraient pour le Parti québécois, qui ont coché « voter Parti québécois », ne voteraient qu'à 74% en faveur de la souveraineté. Donc, des 334 personnes interrogées qui ont dit « votez PQ à la prochaine élection », 3 sur 4 seulement font la souveraineté. Le dernier quart, comme je le disais, on peut le supposer. On n'a pas d'affirmation claire, mais on peut supposer que ce dernier quart-là vote plus pour éliminer la CAQ que pour voter en faveur des projets du Parti québécois. On vote contre la souveraineté à 96% pour ceux qui votent libéral. On vote à 80% contre la souveraineté au Parti conservateur. Québec solidaire, c'est moitié-moitié, mais on vote tout de même contre à 53 contre 42. Et à la CAQ, malgré qu'il y ait beaucoup de péquistes qui ne sont toujours pas rentrés au bercail, c'est à 64 contre 31 pour la souveraineté. Ça reste quand même intéressant comme chiffre parce que c'est ça, même si on dit voter pour le Parti québécois, on ne vote pas nécessairement pour l'option souverainiste. Donc, il reste encore beaucoup de croûte à manger avant de réussir à convaincre la population que de donner une troisième chance au référendum. Jamais 203, comme on dit, mais là, en ce moment, la troisième chance, il va falloir l'éloigner le plus possible dans le temps, parce que même si on veut la faire au premier mandat, comme Paul Saint-Pierre Plamondon aime le dire, qu'il y aura un référendum au premier mandat du Parti québécois, ben ça s'annonce pas gagnant-gagnant, du moins du premier coup. Ça s'annonce pas gagnant-gagnant, donc à suivre quelles tentatives devront être faites pour réussir à vendre davantage la souveraineté, parce que c'est pas super bien parti à même les rangs de ceux qui voteraient pour le Parti québécois. Donc voilà pour ça. À voir au prochain sondage de combien François Legault dégringolera. Mais j'aimais la petite subtilité aussi dans le sondage Léger Journal que seul dans ce graphique-là, il y avait Paul Saint-Pierre tout sourire et tous les autres n'avaient pas spécialement le sourire aux lèvres dans le choix de photo éditoriale qui avait été fait dans dans la publication papier. Mais bon, farce à part, on s'enligne vraisemblablement vers un prochain gouvernement péquiste dans 2 ans. Majoritaire pour l'instant, parce que certains sondages aussi donnaient le PQ en zone de minorité. Mais celui-là, particulièrement, le place plutôt en majorité. Mais évidemment, quand on va se rapprocher de la date électorale, il y aura encore beaucoup de fluctuations à venir. Mais ce ne sera que dans un petit peu moins de 2 ans, la prochaine élection au Québec. On s'arrête là-dessus. Au retour, la deuxième partie de ce deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz.
Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Poste Canada paralysé par une grève et un lockout. Forte augmentation des loyers prévue au Québec en 2025. Le gouvernement Legault réduit ses aides aux PME. Congrès de Québec solidaire, des réformes en discussion. Cinéma Guzzo menacé de liquidation par la CIBC. Scène artistique Taylor Swift enchante Toronto dans une série de concerts. Et au sport en boxe, combat très attendu ce soir entre Mike Tyson et Jake Paul. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
Louis Adrien Cassidy, qu'on vient d'entendre en musique avec Dis-moi, dis-moi. Voilà, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Ça me faisait rire cette semaine. Le dictionnaire de l'Académie française a été publié pour la 9e fois de son histoire depuis 1935. Donc, toutes ces personnes qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font derrière ces murs-là ont décidé de sortir la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Notamment, on a Dany Laferrière qui fait partie de ces personnages importants. Personnage important, peut-être pas, puisque ben, le contenu qui a commencé à être rédigé il y a très longtemps et mis à jour depuis 1935 n'a peut-être pas suivi la courbe qu'elle aurait dû suivre, au sens où il y a beaucoup de mots qui ont un sens totalement différent à notre ère moderne maintenant dans les années 2020. Ils sont peut-être fait un petit peu rattraper par le temps. Ce dictionnaire-là, qui normalement, est, chaque lettre est un volume, donc vraiment à cette belle époque des encyclopédies qui n'existent plus aujourd'hui, ben il y a eu 26 tomes pour le grand dictionnaire de l'Académie française. Mais il ne faut pas oublier que l'Académie française n'accepte pas toutes les féminisations de profession et on dit encore en France « Madame le maire ». Fait que c'est à prendre et à laisser l'Académie, le dictionnaire de l'Académie française et 53 000 nouveaux mots ont fait leur apparition dans la nouvelle édition du Grand Dictionnaire de l'Académie. Il y en a 75 000 dans le Grand Robert, 400 000 dans le Wiki... Je me reprends. On a décidé de choisir pour le Grand Dictionnaire de la langue française seulement 53 000 entrées, comparativement au Grand Robert, qui lui en a 75 000 mots, mais en même temps, peut-être plus le Larousse, mais le Robert, il est quand même assez lousse, ses anglicismes, il faut le dire. Et sur Internet, le Wikitionnaire compte 400 000 mots. Donc, 53 000 entrées seulement, comme s'il n'y avait que 53 000 mots dans la langue française, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et il y a des petites erreurs, comme je disais. Il y a des petites définitions qui ne sont peut-être pas en accord avec l'époque dans laquelle on est rendu. Premier exemple, le mot « mail ». Si nous, au Québec, on a « courriel », qu'on a francisé, les Français utilisent encore le mail. On n'a juste jamais traduit email. Et bien non, la définition dans le grand dictionnaire de la langue française, de l'Académie française, un mail serait plutôt un petit marteau ou une promenade plantée d'arbres. Je laisse le silence parler. L'écu, un écu, c'est cet argent qu'on croyait perdu. Eh bien non, la définition de l'Académie française, le monnaie des pays de la communauté économique européenne. Sachez-le les Français, vous n'utilisez pas l'euro, mais bien les écus, selon l'Académie française. Et là. Autre perle qui a été relevée, c'est une universitaire en langue française, justement, Lélia Véron, qui a publié « Trahir et venger », notamment, qui a fait le tour de ces petites perles du nouveau dictionnaire de l'Académie française. Perle grammaticale. L'Académie appelle les mots comme « mon » et « ma » des adjectifs possessifs. Comme à la belle époque, en tant que jeune qui a frôlé la réforme scolaire des années 90, j'ai commencé mon primaire avec des déterminants comme « mon » et « ma » comme des adjectifs possessifs qui sont devenus des déterminants possessifs avec le temps, mais j'ai connu ces deux grammaires-là dans ce cas-ci. Et voilà, donc on parle toujours d'adjectifs possessifs, adjectifs dans le beau dictionnaire de l'Académie, alors que ce sont devenus des déterminants possessifs de la grammaire française. C'est enseigné comme déterminant depuis les années 80, dit-on en France. Complètement incohérent par rapport au programme officiel de l'Éducation nationale. Rapidement, bon, elle le dit, il y a bien des points communs entre adjectifs et déterminants qui s'accordent tous deux avec le nom en genre et en nombre. Une jolie fille, une déterminant et joli adjectif. Mais les deux fonctionnent très différemment. Un déterminant est toujours à gauche du nom, ne peut pas être supprimé, sauf exception. Contrairement à un adjectif épithète supprimable, souvent déplaçable, cumulable avec d'autres adjectifs. Donc, ce n'est pas... Ils n'ont pas... En fait, ma jolie voiture et ma voiture, on comprend le sens, on comprend les deux, mais juste jolie voiture, on ne sait pas être à qui, on ne dit pas si on parle de quoi. Donc, le déterminant est important. Donc, c'est pour ça qu'un déterminant ne peut pas être un adjectif dans ce cas-ci. Un rectangle n'est pas un carré, tu sais, cette fameuse phrase-là. Le dictionnaire coûte 350 € et non pas écu, malheureusement. Un dictionnaire, bien évidemment, c'est sûr que lorsqu'il est imprimé, ben, il est un peu figé. Donc, s'il y a des modifications à faire, genre la définition de mail, ben ça ne se pourra pas. Donc, voilà pour les petits trucs un peu particuliers. Et vient à se demander à quoi ça sert. Au sens où, à quoi ça sert de vouloir faire cette définition-là. Je viens d'aller le vérifier parce que finalement, j'ai trouvé le lien en ligne. Effectivement, lorsqu'on recherche mail, M-A-I-L, issu du latin maelus, marteau. Première définition, petite masse cylindrique de bois fixée à un long manche dont on se servait pour jouer en poussant, en chassant avec force une boule de buis et qui a donné son nom à ce jeu lui-même. Donner un coup de mail, une partie de mail. Qui dit ça en 2024? Deuxième définition, promenade publique spacieuse et généralement plantée d'arbres où l'on jouait autrefois au mail. Ce fameux jeu où l'on jouait au mail. L'orne du mail d'Anatole France, 1897. Je l'ai rencontré sur le mail. Mais là, je dis mail, puis il n'y a pas la prononciation. Fait qu'en plus, il n'y a pas la prononciation des mots. Fait que déjà là, c'est un autre point, un autre petit drapeau rouge. Et trois marques de domaine. Gros marteau dont le carrier se sert pour enfoncer les coins entre les joints ou dans les entrailles des pierres. Donc en plus, cette utilisation de marteau-là est pour de la brique et de la pierre et non pas pour clouer quelque chose. Fait que c'est un peu dépassé, malheureusement. Mais là, je vois qu'il y avait aussi la définition de « mailing ». Je suis très curieux. Est-ce que c'est l'action de taper du « mail » Mais voilà. Donc, est-ce que c'est encore pertinent au sens où, si cet exercice-là a été fait, mais qu'il n'a pas vraiment été révisé, parce que ça voudrait dire que depuis les années 30, on révisait chaque définition les unes après les autres, puis dans le code de mail, on a réglé ça dans les années 50, tu sais. Pardon. Fait que, tu sais, clairement, il n'y a pas eu de révision. Mailing, publi postage, 20e siècle, composé à partir de public et de postage. Donc, on dit que le mailing, comme une mailing list, une liste de publi-postage, c'est un anglicisme, mais la définition de mail reste quand même un petit marteau. Entreprise de publi-postage, activité postale, ne pas dire mailing, mais plutôt publi-postage. Donc même dans ce cas-là, c'est même pas dans le cas d'un courriel, c'est genre un publi-sac. Ou la circulaire du Canadian Tire est dans le mailing ou dans le publi-postage. C'est fascinant. Donc, à la question, doit-on se surprendre que l'Académie française n'accepte pas mairesse et considère qu'un mail, c'est un petit marteau? Ça veut tout dire. Donc, endroit qui se passe des choses très étranges et qu'on peut se poser la question à quoi ça sert? Par chance, ou en tout cas, par excès de zèle, nous avons l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, ici au Québec, pour franciser le plus d'anglicisme, chose que les Français ne font plus non plus. Mais reste que, bon, si mail est un petit marteau, reste que mouflet ne sera jamais accepté au Québec pour être un muffin. Ça, c'est mon mot préféré de l'OQLF qui avait tenté de franciser muffin à une certaine époque, mais que ça n'a pas marché non plus. Par contre, courriel est bien en place et ça, on en reçoit beaucoup des courriels. Voilà. Blague à part, on ira faire une courte pause ici sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Chose sauvage qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Avec Incendie au paradis. Voilà pour le titre de la pièce. Rapidement, pour terminer l'émission de cette semaine, on espère peut-être avoir un petit boost de financement pour continuer à faire de la télévision au Canada, puisque les plus importants producteurs de l'industrie québécoise de la télévision font front commun et appellent les libéraux à respecter l'un de leurs engagements faits lors de la campagne électorale, et ce, avant que Pierre Poilievre vienne mettre la hache dedans. Dans une lettre envoyée cette semaine au premier ministre et à la ministre du patrimoine canadien, ils implorent que le gouvernement double sa contribution au fonds des médias qui permettrait de financer une bonne partie de l'industrie télévisuelle québécois et canadien. Une autre époque, c'était les distributeurs, donc les câbleaux distributeurs qui devaient partager cette facture-là, donc devaient remettre un certain pourcentage du montant qui était perçu pour aider à financer les productions télévisuelles. C'est le Fonds canadien, comme on pouvait le voir à la fin de générique des émissions d'à peu près toutes. Si en 2016-2017, le petit montant était de 216 millions, aujourd'hui, ou plutôt d'ici deux ans, on parlerait plutôt de 124 millions, donc quasiment la moitié moins. Ça va paraître. Déjà, ça paraît beaucoup dans des émissions comme Indéfendable où soudainement, tout le monde mange de la pizza Salvatore, fait son épicerie chez IGA grâce à Voilà et conduit des chars loués d'Albi et le Géant, comme on a pu le voir cette semaine notamment. Ben, si on veut commencer à éviter d'avoir ce genre de placement de produits grotesque-là, oui, il y avait eu une scène de crime et comme par hasard, il y a un camion de Tanguay qui passait dans le background d'une des scènes. Fait que, tu sais, ça s'est déjà vu, ça existe déjà. Tu sais, des émissions qui servaient du jus d'orange Tropicana. Mais là, c'était vraiment flagrant cette semaine. Il y a eu deux scènes consécutives où deux jeunes qui s'en allaient en trip de fin de semaine mangeaient du Salvatore après que dans le bureau de Sébastien Davernas, on mangeait aussi de la pizza Salvatore pour dîner. Sont mieux d'aimer leur repas, les acteurs, parce qu'ils vont en manger pas mal. Fait que voilà, ça coûte cher faire de la télévision, c'est sûr et certain. On a beau dire qu'au Québec, on est capable de faire beaucoup avec peu d'argent. Là, si on se ramasse avec encore moins d'argent, ben ça, c'est sûr qu'il y a des projets qui vont devoir sauter. Promesse-là qui avait été faite par les libéraux de justement bonifier peut-être l'engagement, puisque les câblos distributeurs se font débrancher eux-mêmes de plus en plus. Les gens ne sont plus abonnés au câble. Ils s'abonnent aux plateformes numériques et ça fait en sorte que le montant qui normalement était mis, le 50-55 $ qui était mis chez Bell, Vidéotron, Cogeco, etc., est maintenant rendu dans Netflix, Disney+, Prime, Crave, qui, eux, reçoivent à peu près ça, 55 $ aussi. Donc, la télé migre vers les plateformes. Tout TV, on peut l'ajouter, il y en a qui l'ont aussi. L'argent change de place et il faut que le moyen de financement change aussi. Bon, c'est sûr que dans ce cas-ci, on demande à avoir peut-être un petit peu plus d'argent gouvernemental, mais même si elle est entérinée avant la prochaine élection, Pierre Poilievre aura le loisir, lui, d'aller retirer ce montant-là en tant que dépense inutile, comme il le dit si bien. Ou diminuer le montant de manière assez importante pour que, justement, on ait soit des reprises ou des shows qui existent déjà et qu'on ne fera pas de changement dans le décor trop pendant ces années-là. Pour atténuer le désengagement des câblos distributeurs, le gouvernement avait déjà convenu d'une enveloppe supplémentaire de 42,5 millions par an pour le fonds en tant que tel. En vertu de la nouvelle loi sur la diffusion du contenu en ligne, les services de diffusion comme Netflix doivent redonner ou reverser une partie de leurs revenus au Fonds des médias canadiens, le FMC, chose qui, évidemment, ben, ne sera pas nécessairement fait de gaieté de cœur, surtout Netflix. Ces nouvelles sources de revenus sont largement insuffisantes pour combler les pertes par le désabonnement au câble, plaident les producteurs québécois qui soutiennent qu'une réduction du budget au Fonds des médias aurait des répercussions dramatiques sur l'industrie télévisuelle. Déjà qu'en plus, les acteurs en ce moment sont en grève et en pourparlers pour tenter d'obtenir des compensations, par exemple pour des rediffusions web, où normalement ils sont payés pour une diffusion télé. Mais un peu comme aux États-Unis, ils n'ont pas nécessairement de droit de reprise lorsque c'est joué sur Internet. Que surtout aux États-Unis, Netflix et un peu partout dans le monde, si des émissions sont visionnées à plus de milliards ou à plus de millions de visionnements, ben plus des millions de visionnements que des milliards, mais si mettons une émission a été vue 100 millions de fois, ben être aussi payé que si l'émission a été vue 12 fois. Fait que tu sais, une espèce de droit de suite que normalement on aurait pour des émissions de télé, c'est les reprises de La Petite Vie ou les reprises d'Un gars de fille. Là, c'est les nouveaux épisodes, mais tu sais, les reprises qu'on a à la télévision, par exemple, ben, les acteurs qui ont joué dans ces émissions-là reçoivent une fois de temps en temps des chèques de « Hey, l'émission a rejoué deux fois où tu y étais, voici un chèque de 12 cents. » Fait que tu sais, ce genre de contrat-là, entre guillemets, on veut les mettre plus, ou en tout cas les rendre plus facilement accessibles dans ce cas-ci, ou en tout cas de rendre ça plus, plus fluide peut-être, je sais pas quel terme il serait convenant dans ce cas-ci, mais voilà, d'un peu pas faire ça dans le vide, disons ça comme ça, pour être capable de justement être, d'être payé sur le sens, disons ça comme ça. On termine l'émission de cette semaine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On verra bien, peut-être est-ce qu'il y aura un petit peu moins de production originale à venir à la télévision, ce qui serait pas, ce serait un peu dommage, mais en même temps, il y a tellement d'offres télévisuelles que c'est sûr que ça serait dommage, mais voilà, on veut quand même conserver notre culture québécoise, notre télé québécoise malgré tout. Est-ce que ça se termine? Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service. Ici même, sur les ondes de CFAQ 94.3, 88.3 et de CHIZ 94.3 à Québec. Salut.